Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois, mais je rappelle que la Bible, qui veut dire les livres, une bibliothèque, que la Bible raconte une histoire, et que c'est l'histoire d'un peuple qui cherche Dieu. Donc la dernière fois, avant d'avoir vu tout à fait le début de la Bible, j'avais rappelé quelques points importants. C'est que la Bible, essentiellement, principalement, le plus important de la Bible, c'est qu'elle veut nous faire comprendre qui est Dieu. C'est ça l'essentiel de la Bible. Elle veut nous faire comprendre qui est Dieu. Et la dernière fois, on avait vu plusieurs points. D'abord que Dieu, il est quelqu'un qui se révèle. C'est-à-dire qui se donne à connaître. C'est lui qui prend l'initiative de se faire connaître. Il vient à notre rencontre. Donc c'était le mot « rencontre ». Il vient à notre rencontre. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il vient à notre rencontre, il établit avec nous une alliance. C'est-à-dire un lien entre lui et le peuple. Une alliance. Une relation, donc, avec les hommes. Dieu établit une relation avec les hommes. Il vient à notre rencontre, il établit une alliance. Et dans cette alliance, il est fidèle et miséricordieux. Il est fidèle face à l'infidélité du peuple. Le peuple est sans cesse infidèle, c'est-à-dire ne fait pas ce qu'il devrait faire. Mais Dieu est fidèle et pardonne. Le quatrième point, c'est que Dieu agit dans l'histoire. Dieu agit dans notre histoire. Si Dieu vient à notre rencontre, c'est pour agir dans notre histoire, dans ce que nous vivons. C'était le quatrième point. Et enfin, cinquième point, Dieu n'est pas, c'est comme ça qu'il se révèle dans la Bible, il n'est pas lointain, il est proche. Je suis avec vous, je suis au milieu de vous, je vous accompagne, un Dieu proche. Voilà, donc ça, on avait vu ça la dernière fois. Il faut se rappeler ces points parce que chaque fois qu'on lit un texte de la Bible, on trouve un des éléments ou plusieurs de ces éléments. La rencontre, l'alliance, la fidélité, l'action dans l'histoire et puis la proximité. Alors, on va commencer par... on va continuer la lecture de la Bible en essayant de comprendre ce qui se passe avec Abraham. C'est-à-dire, c'est au chapitre 12 de la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible, un livre qui commence par « Au commencement ». Donc, au chapitre 12... on commence à nous raconter l'histoire d'Abraham. Je disais la dernière fois, je terminais par ça, que Abraham habitait à Ur, en Chaldée, dans l'Irak actuel, et puis qu'avec son père, qui s'appelle Terah, mais peu importe, il est monté jusqu'à Haran, au nord, tout à fait au nord. Pourquoi est-ce qu'il est monté au nord et qu'il n'est pas allé vers l'ouest? Simplement parce que c'est le désert. Donc puisqu'il est monté le long du fleuve, il s'est arrêté à Haran, il s'est arrêté très longtemps à Haran. Et puis un jour, Abraham entend à l'intérieur de lui-même une voix qui lui dit « Quitte ton pays, quitte ton pays. » Quitte ton pays vers un pays que je t'indiquerai. Autrement dit, Dieu ne demande pas à Abraham « va à tel endroit », « va en Égypte » par exemple, mais il lui dit « va vers un pays que je t'indiquerai ». Qui veut dire que Abraham ne sait pas, quand il va partir, il ne sait pas où il va aller. Il part sans savoir où il va. Il part sans savoir où il va. Ça, c'est très important parce que c'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, prend exemple sur Abraham, au chapitre 11, pour dire que Abraham est l'homme de la foi. Je vous lis un petit texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Donc, la lettre, des siècles plus tard, hein, la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, relie cet épisode d'Abraham en disant si Abraham a agi de cette manière-là, c'est-à-dire s'il est parti sans savoir où il allait, c'est qu'il avait la foi. La foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la confiance. Il avait confiance que celui qu'il appelait ne le tromperait pas, ne le conduirait pas nulle part, mais le conduirait quelque part, et qu'il n'avait pas besoin de savoir avant. Il n'avait pas besoin de savoir avant. Donc, quitte. Quitte ton pays, quitte ta parenté. Le texte dit exactement, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Et puis, Dieu lui fait une promesse. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Donc ça, c'est important de bien retenir ça. À ce moment-là, Abraham, il est vieux. Il a 75 ans, il n'a pas d'enfant, il est marié à quelqu'un qui s'appelle Sarah, sa femme est vieille aussi, ils sont tous les deux âgés au moment où ils vont partir. Et Dieu lui dit, tu vas devenir une grande nation. Retenez ça, tu vas devenir une grande nation. Une promesse, mais Dieu ne dit pas comment ça va se faire. Dieu ne dit rien. Il dit seulement « pars ». Pars, tu verras bien où je te mènerai, premièrement, et deuxièmement, je ferai de toi une grande nation. Alors Abraham part avec sa femme, Sarah, avec Lot aussi, et qui est son neveu, et puis avec tous ses biens. Donc il ne faut pas imaginer quelqu'un qui part tout seul avec sa petite valise, hein, voilà, et qui prend le train en Gare du Nord. Non, ça veut dire, on part avec les troupeaux, les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire c'est il y a du monde qui part. Dieu n'a pas demandé à Abraham de partir tout seul, il a demandé de partir, mais de quitter sa famille. Or, je le disais déjà la dernière fois, mais il faut se le rappeler, le père d'Abraham, qui s'appelait Terah, était un fabricateur d'idoles. Donc une idole, c'est un dieu que l'on fabrique, et comme dit le prophète Isaïe, les idoles, ça ne parle pas. Une idole, c'est dans un morceau de bois, dans un morceau de bronze, dans un morceau de pierre, on l'a taillé, on lui a donné la forme d'un animal ou bien d'un être humain, et on l'adore. Et Isaïe dit, vous adorez quelque chose qui ne bouge pas et qui ne parle pas. Donc, contrairement à ce qu'on a dit là sur qui est Dieu dans la Bible, l'idole, ça ne vient pas à la rencontre, on va se prosterner devant, mais ça ne vient pas à la rencontre. L'idole, ça ne fait pas alliance avec l'humanité, simplement parce que l'idole, elle est morte, elle est c'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle est, elle est non vivante. Si elle était morte, ça voudrait dire que avant elle était vivante. Hein. Donc elle est non vivante, elle est inanimée, elle est sans âme. L'idole ne peut pas être fidèle ou miséricordieuse. Un tronc d'arbre ou un bloc de pierre ne peut pas vous pardonner. L'idole n'agit pas dans l'histoire. Enfin, l'idole, elle est proche, parce que l'idole peut être ici à un mètre de moi, mais elle ne se fait pas proche. C'est moi qui m'en rapproche. Elle ne se fait pas proche. Donc une idole, c'est le contraire du Dieu que nous révèle la Bible, que nous révèle le Premier Testament, que nous révèle l'Ancien Testament. C'est le contraire. Terah, le père d'Abraham, était fabricateur d'idoles. Ça nous est dit dans un passage de la Bible, dans le livre de Josué, qui est un livre historique, livre de Josué au chapitre 24. Donc Terah, fabricateur d'idoles. Et Dieu demande à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte cet univers de fabrication d'idoles. C'est-à-dire, viens à ma rencontre, viens avec moi, suis-moi. Vous savez, Jésus, dans l'Évangile, plusieurs fois, lorsqu'il appelle ses apôtres, dit « suis-moi, suis-moi ». C'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on dit que cette histoire que je suis en train de vous raconter, souvent on dit « c'est la vocation d'Abraham ». Vocation, ça veut dire « appel ». La vocation, le mot vocation veut dire appel. Dieu appelle Abraham. Donc Abraham part. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il nous est déjà dit que il n'est jamais trop tard pour partir. Donc, si ça avait été un petit jeune de 18 ans, on dirait « les voyages forment la jeunesse ». Pars, mon gars, et puis tu reviendras dans 10 ans, plein d'expérience. Oui, mais l'expérience, Abraham en a déjà. On dira « oui, mais il n'a jamais voyagé ». Si il est parti dur pour aller jusqu'à Haran, peut-être 1500 kilomètres, qu'on ne faisait pas en avion à l'époque. Donc, le voyage, l'aventure, des choses qu'il ne connaissait pas, il a l'habitude. C'est un homme d'expérience. Donc, il n'y a pas d'âge pour partir. Ou, dit d'une autre manière, il n'y a pas d'âge pour commencer une autre vie. Dieu demande à Abraham de quitter ce dont il avait l'habitude pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas encore, et là, il y aura une grande nation dont il sera le père. Alors, on nous dit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, une fois on nous dit, c'est dans la lettre de Jacques, que Abraham est ami de Dieu, Et puis, chez l'apôtre Paul, on nous dit qu'il est le père des croyants. Le père des croyants en un double sens. D'abord parce que c'est lui qui est le modèle de la foi, parce qu'il est parti sans savoir où il allait. Mais c'est le maximum de la foi, c'est-à-dire, voilà, vas-y, mais je vais où ? Vas-y, et puis fais-moi confiance. Oui, mais je vais où ? À droite ou à gauche, ou tout droit, ou en arrière ? Non, ben, vas-y. Vous voyez, voilà. Si on vous dit maintenant, ben vas-y, vous allez aller où ? Ben, simplement, il faut commencer à marcher. Et Dieu vous conduira. Donc, voilà, le père de la foi. Et puis, père des croyants, au sens où c'est le père de ce grand peuple promis par Dieu à Abraham. Père des croyants. Hein ? Alors, ça, c'est le peuple d'Israël, évidemment. Oui, oui. Abraham n'est pas juif. Abraham est païen. Abraham est païen.
Oui, mais ses origines, Abraham est vraiment juif ou vrai ?
Non, Abraham, il n'est pas juif, puisqu'il n'y a pas encore de juifs à cette époque. Donc Abraham, il est païen et il est appelé par Dieu. Oui. Voilà. Et après, au bout d'un certain temps, les juifs, qui forment un peuple, le peuple d'Israël, comme disent les prophètes, le peuple d'Israël réfléchit à sa vie, se dit, ben, Abraham est notre père. E-E-S-T, il est notre père. Mais Abraham, là, c'est un païen qui habite en Mésopotamie, donc l'Irak actuel, et puis, arrivé au nord, il entend une voix en disant, ben, pars, et il part. Tu seras le père d'un peuple nombreux. Mais voilà, c'est après coup que le peuple d'Israël dit, ah bien, voilà, nous avons un père, et notre père c'est Abraham. C'est-à-dire que le peuple, alors passons un petit instant là-dessus, le peuple à un moment donné de son histoire, ça peut être comme chacun de nous, à un moment donné de son histoire se dit, mais on vient d'où ? On vient d'où ? C'est qui ? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Je viens d'où ? Et ils se disent ça en tant que peuple. Ils réfléchissent. Au fond, Dieu nous a appelés. On est sûr, se dit le peuple, que Dieu nous a appelés. Parce qu'il a fait des alliances avec nous. Avec Moïse. Et puis une nouvelle alliance après l'exil. Donc il a fait alliance avec nous. Mais quand est-ce que ça a commencé ? Et le peuple dit, ça a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Oui, vas-y Michel.
Il y a quelqu'un qui a pris une première alliance, qui était bien avant Abraham.
Noé. Oui. Voilà, Noé. Voilà, Noé. Donc on avait vu ça la dernière fois, hein. Il y a Noé, c'est une première alliance avec quelqu'un qui n'est pas juif, hein. Les juifs n'existaient pas évidemment à cette époque-là, donc on ne sait pas à quelle époque c'est une histoire qu'on se raconte après coup, où on dit Dieu y fait alliance avec toute l'humanité, indépendamment de savoir qu'est-ce qu'il pense, avec toute l'humanité.
C'est pas avec le déluge.
Alors c'était au moment du déluge. Voilà. Donc Noé.
C'est ça, c'est la descendance d'Abraham.
Non, Noé c'est avant. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle, on avait vu ça la dernière fois, la Bible, elle commence par les 11 premiers chapitres. Il y a d'abord la création de la femme et de l'homme, puis il y a Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et d'Ève, et c'est la première histoire de la fraternité. Et l'histoire de la fraternité, elle commence par un meurtre. Voilà. Bon, ça c'est très important. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur la fraternité, il faut réfléchir à partir de cette première histoire, Caïn et Abel. C'est-à-dire la fraternité, ce n'est pas évident. Voilà. Si on met des frères ensemble, eh bien il y en a un qui tue l'autre. Alors on sait bien comment ça se passe dans la vie, hein, et qui fait que si on met des gens ensemble, ce n'est jamais facile. Donc c'est une réflexion en une histoire très 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 courte et très violente, mais qui vise à exprimer, de dire, ben oui, c'est pas étonnant qu'on n'y arrive pas à vivre ensemble. Regardez, les premiers hommes, ceux qui sont nés, hein, d'Adam et d'Ève, eh bien, Caïn a tué Abel. Et c'est la première manifestation de la miséricorde de Dieu, car Caïn n'est pas tué, mais Caïn est protégé par Dieu. Caïn est protégé. On dit, Dieu dit, je ne permettrai pas que quelqu'un mette la main sur contre Caïn. Alors, bien sûr, bien sûr, Dieu ne bénit pas Caïn et ne le félicite pas d'avoir tué son frère, mais Dieu lui fait miséricorde. Et puis après, il nous est expliqué que les hommes se reproduisent, ils deviennent nombreux, et là on est en dehors de l'histoire, c'est-à-dire on ne sait pas les années, hein, ce sont des siècles, c'est une histoire qu'on se raconte après coup, et les choses vont de mal en pis, c'est-à-dire ça s'aggrave, il y a du mal partout sur la terre. C'est alors qu'il y a un énorme déluge. Et Noé construit une arche. Là encore, Dieu demande à Noé de construire une arche pour sauver la création. À la fin de ce déluge, lorsqu'il ne pleut plus, Dieu met son arc dans le ciel. Ça a donné l'arc-en-ciel. L'arc dans le ciel. Donc c'est le déluge. Première alliance avec Noé.
Dieu avait averti, mais les gens n'en ont pas tenu compte.
Voilà.
Parce qu'ils faisaient n'importe quoi.
Oui.
Ils adoraient les arbres comme les Romains, puis les Assyriens, ils aimaient beaucoup les chevaux. Ils se prosternaient, ils se tenaient la livre. Ils ne se prosternaient pas devant les idoles. Mais...
Donc...
À l'époque de Moïse, il a appelé trois fois, je crois. Trois fois, il a appelé. Au début, il demandait qu'est-ce que c'est, après, il a appelé encore une fois. Il appelle, il est venu, mais Dieu, c'est un petit Dieu.
Donc, Noé. Après Noé, il arrive encore quelque chose, c'est que les gens veulent construire une tour aussi haute que le ciel.
La tour de Babel, oui.
La tour de Babel. Et là, les êtres humains sont séparés les uns des autres, chacun avec sa langue. Donc si chacun a une langue différente autour de la table, quel est le résultat? C'est qu'on se voit, mais qu'on ne se comprend pas. Voilà. Hein? Si nous n'avons pas la même langue, nous ne nous comprenons pas. On voit encore l'importance aujourd'hui, c'est-à-dire si dans un pays on ne parle pas la langue du pays, on ne peut pas se comprendre. Donc, on se voit, mais on ne peut pas se comprendre. Ça, c'est Babel.
C'est Satan qui a fait les divisions. Parce que après, ça fait des divisions de frontières. Parce qu'au début, il n'y a pas de frontières.
Oui.
C'est Satan qui a fait les divisions. Pour mieux régner.
Oui, alors on peut dire ça. Alors, peut-être. Il y a un mot qu'on peut expliquer, on peut en profiter.
Je ne comprenais pas, mais j'arrive à comprendre.
Il y a le mot, c'est un mot que vous connaissez, parce qu'on l'emploie dans le Nouveau Testament, c'est le mot diable.
Le mal.
Or, le diable, ça veut dire celui qui divise. C'est ça que veut dire diable. Diable, c'est un mot grec, qui veut dire le diviseur. Et ça a donné diabolos et diable en français. Et c'est le diviseur. Donc tu as raison, la division entre différentes langues, c'est celui qui divise, que dans le Nouveau Testament, on appelle le diable.
Hein?
Alors, il nous oblige à nous dresser les uns contre les autres. Alors là, c'est un autre mot qui est employé à la fois dans le Premier Testament et dans le Nouveau Testament. Et c'est le mot de Satan. Alors, Satan, c'est un mot...
Je ne suis pour rien.
Oui, non, non. Satan, c'est un mot... Satan, c'est un mot hébreu qui veut dire... adversaire. Non, ça ne veut pas dire le mal, ça veut dire adversaire. Satan, c'est l'adversaire. Donc il y a le diable qui divise, et tu disais qu'il nous met les uns contre les autres, c'est en effet Satan qui est l'adversaire. Voilà. C'est notre adversaire, et donc notre adversaire, il fait en sorte que nous soyons adversaires les uns contre les autres. Plus même qu'adversaire, ennemi. Donc, voilà, il y a tout cette première partie de la Bible jusqu'au chapitre 11 de la Genèse. À partir du chapitre 12, c'est là où on était tout à l'heure, c'est l'histoire d'Abraham. Donc Abraham part. Il y a une promesse. Problème. Le problème, c'est que Dieu a promis une grande nation... et Abraham n'a pas d'enfant. Abraham n'a pas d'enfant, et Dieu lui promet un fils. Alors, un peu plus loin dans le texte, il est dit ceci. Un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans, parce qu'entre-temps, il est passé de 75 à 100 ans, un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans, ou bien Sarah, avec ses 90 ans, pourrait-elle enfanter? Donc, Abraham, voilà, il se dit, c'est bien joli, Dieu me promet un fils, enfin, c'est pas possible. Comment ça va se faire? Et alors, on peut adopter, oui. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Épître aux Romains, on nous explique quelque chose. Abraham, c'est au chapitre 4, au verset 18, Abraham, espérant contre toute espérance, crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il lui fut dit, telle sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelque 100 ans, et le sein de Sarah était mort également, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante. Certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour l'accomplir. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que L'histoire qui nous est racontée dans l'Ancien Testament, c'est repris dans le Nouveau, parce que ça a des choses à nous apprendre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une histoire comme ça, voilà, il y a combien, on ne sait pas combien de temps. On dit grosso modo que c'est il y a 1800 ans, Abraham, mais on ne sait pas combien de temps, c'est pas aussi précis que on sait absolument le jour de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des preuves, il y a des journaux, il y a des archives. Bon, là, pour Abraham, il n'y a pas d'archives. Il n'y a aucun agenda où on dit « Abraham, le tel jour, à telle heure, Dieu lui a parlé. » Mais le Nouveau Testament se rappelle tout ce qu'on dit, la Bible qui a été lue de génération en génération. Et Paul insiste sur la confiance d'Abraham qui, quoique âgé, eh bien, s'est dit « Comment ça va se faire? J'en sais rien, mais je fais confiance. »
Je crois que Dieu ne lui a pas accordé à Abraham 100 ans de plus.
100 ans de
100 ans de plus, parce qu'il doit vivre à 80-90 ans. Puis, il lui a accordé un peu plus.
Non, Dieu n'a pas accordé. Il se trouve que c'est comme ça. On a tendance à tous ces ancêtres de la Bible, ils meurent entre 90 et 300 ans. On met des âges comme ça énormes à des gens dont on ignore tout. C'est une manière de dire que c'était des gens extrêmement importants. Donc non, Dieu n'a pas accordé une faveur à Abraham. Simplement, ce qui est important, c'est voilà, il est vieux. Quoique vieux, Dieu lui demande de partir dans la foi. Il fait confiance, il part. Dieu lui promet une descendance. Inquiétude, malgré tout, d'Abraham en disant comment ça va pouvoir se faire, moi et ma femme, comment ça va pouvoir se faire. Et puis, au même moment de cette promesse d'un fils, Dieu fait alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance. C'est-à-dire qu'il lui dit, je suis avec toi. Donc Dieu ne se contente pas, au chapitre 12, de dire à Abraham, va vers un pays que je t'indiquerai, mais Dieu se fait proche. Dieu dit, je suis avec toi. Donc ça, c'est important. C'est pas seulement un Dieu qui donne un ordre, c'est un Dieu qui se fait proche. Dieu sera là. Et puis, arrive un épisode, je vous le raconte, parce que c'est un épisode qui a été représenté ensuite dans l'art chrétien, surtout dans les icônes, une fameuse icône qu'on appelle l'icône de Roublev, qui est l'icône de la Trinité, où on voit trois anges qui sont installés à une table avec une coupe au milieu, qui est la coupe de l'Eucharistie. Et là, c'est une histoire qui est dans la Genèse. Il y a un moment, trois hommes qui arrivent dans le campement où se trouve Abraham. Lorsqu'Abraham voit ces trois hommes arriver, il va au-devant d'eux et il leur dit « Écoutez, arrêtez-vous. Je vais vous donner à manger. » Il leur fait l'hospitalité. Sarah fait des galettes. Et pendant ce temps-là, les trois hommes, qu'on appelle dans le texte tantôt des hommes, tantôt des anges, mais l'ange, c'est pas quelqu'un qui a des ailes. Ça n'a rien à voir avec ça. L'ange, ça veut dire messager. Donc le messager, il n'a pas forcément des ailes. Il peut avoir des ailes, pourquoi pas. Mais le plus souvent, le messager, c'est un homme et une femme comme nous autres autour de la table. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, vous pouvez rencontrer des anges, vous pouvez même rencontrer plusieurs anges par jour, parce que les anges, ce sont les gens que vous rencontrez. C'est un messager. L'ange, c'est quelqu'un qui vient me porter un message de la part de Dieu. Il me dit pas forcément c'est Dieu qui te dit ça, mais il dit quelque chose qui me fait comprendre quelque chose sur Dieu ou quelque chose que j'ai à faire. Donc dans ce texte-là, attends juste Michel, dans ce texte-là, il y a trois hommes qu'on appelle trois messagers ou trois anges. Mais ange, ça veut dire messager. Oui. Ensuite, on a représenté des anges avec des ailes, mais oui, c'est un messager. Donc dans le texte, on dit bien trois hommes arrivent. Et là, ils disent à Abraham, tu vas avoir un fils. Sarah, la femme d'Abraham, elle est dans la tente. Dans la tente, la tente, dans le campement. Et elle entend les trois hommes qui disent ça à Abraham. Alors Sarah, elle rit. Elle rit parce que se dit ça va pas la tête. Elle rit. C'est intéressant qu'elle rit parce que le fils qui finalement va naître, il va s'appeler Isaac. Et Isaac, ça veut dire elle a ri. Le mot Isaac, Yitzhak, ça a donné en français Isaac, et Yitzhak, ça veut dire elle a ri. Voilà. On a donné le nom de ce qui est arrivé à Sarah. Sarah se demande qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et finalement, le texte nous dit, Sarah devient enceinte. Et elle donne naissance à un fils qui s'appelle Isaac, à qui on donne le nom d'Isaac. Lorsque Isaac naît, Abraham a 100 ans. Donc, voilà, la promesse, elle est réalisée. Abraham a un fils. Donc, on peut imaginer que Abraham se dit, mon fils, il va se marier, il aura des fils, et au bout de plusieurs générations, ça fera en effet un peuple nombreux. Manque de chance, voilà que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Alors, vous voyez la situation. Un homme et sa femme, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Dieu lui dit, tu vas avoir une grande génération. Puis ensuite, il est plus précis, il dit, tu vas avoir un fils, à travers le message des trois hommes ou des trois anges. Et puis, en effet, il y a un fils, Isaac. Et voilà que Dieu dit, ce fils, tu vas t'en séparer. Non seulement t'en séparer, mais tu vas me le donner en sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas me le donner. Oui, mais alors, qu'est-ce que je fais de la promesse? Oui, il y a quelque chose de contradictoire, d'impossible à comprendre. Dieu a donné, et voilà que Dieu reprend. Dieu a donné, et Dieu reprend. Alors, le texte nous dit que Abraham part avec Isaac, avec du bois, mais pas d'animal. Au milieu de la montée, sur la montagne, Isaac demande à son père, où est l'agneau pour le sacrifice? C'est-à-dire que le fils, il se dit, c'est bien joli, on a du bois, mais il n'y a pas d'animal, comment on va faire? Abraham dit, Dieu pourvoira, c'est-à-dire Dieu va s'en occuper. T'inquiète pas, Dieu va s'en occuper. Là encore, Abraham figure de la foi. Premier temps de la foi, c'était « va vers un pays que je t'indiquerai ». Le deuxième temps de la foi et de la confiance, c'est sacrifie le fils de la promesse, celui que je t'ai promis, celui que je t'ai donné, je te le redemande. Et Abraham monte. Abraham, à aucun moment dans le texte, ne dit à Dieu, « Mais ça va pas, tu m'as donné un fils et maintenant tu veux me le reprendre. » Or, on sait qu'Abraham sait discuter avec Dieu, puisqu'une fois, devant la ville de Sodome, Abraham négocie avec Dieu que la ville de Sodome ne soit pas détruite. Ben, s'il y a 50 justes, dit Abraham à Dieu, tu vas pas détruire. Oui, d'accord, s'il y a 50 justes, dit Dieu, je ne détruis pas la ville. Ah, il y en aura peut-être que 30. Pour 30 justes, je ne détruirai pas la ville. Ben, il y en aura peut-être que 10. Pour 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Il y en aura peut-être que 5. Pour 5 justes, je ne détruirai pas la ville. Et puis Abraham s'est arrêté là. La ville a été détruite parce qu'il n'y avait pas 5 justes à Sodome. Mais Abraham a eu tort, parce qu'Abraham a cru que Dieu comptait. Or Dieu ne compte pas. Abraham aurait été jusqu'à dire, mais s'il n'y a aucun juste, ne détruit pas la ville n'aurait pas été détruite. Dieu n'est pas comptable. Mais Abraham, voilà, Abraham se trompe. Abraham, c'est un homme qui a la foi, c'est un juste, mais Abraham se trompe sur Dieu. Mais on sait par cet épisode que Abraham peut ne pas être d'accord avec Dieu. C'est-à-dire, ben écoute, non, et négocier avec Dieu. Et là, il négocie pas, alors qu'on lui demande son fils. Il a confiance. Vous connaissez la fin de l'histoire. Abraham prend son fils, le met sur le fagot de bois, s'apprête à le sacrifier, et à ce moment-là, il y a un bélier dont les cornes sont prises dans un buisson épineux, et Dieu lui dit, voilà l'animal pour le sacrifice. Donc, Abraham va jusqu'à la limite, jusqu'au moment où, et à ce moment-là, Dieu pourvoit, Dieu s'est occupé de l'animal, c'est un bélier, et non pas le fils. Cet épisode est important pour la confiance d'Abraham, qui est une confiance inhumaine, hein, qui dépasse notre imagination, mais c'est important aussi parce que dans le christianisme, après, on a interprété Isaac comme le sacrifice de Jésus sur la croix. Sacrifice de Jésus sur la croix. Plusieurs fois, je vous ai fait référence au Nouveau Testament. Parce que, je le disais la première fois, la Bible, c'est l'Ancien Testament, le Premier Testament et le Nouveau Testament reliés l'un avec l'autre. Et le Nouveau Testament fait sans cesse référence au Premier Testament. Sans cesse référence. Pour ça que plusieurs fois, je vous ai lu quelques passages de Paul qui parle d'Abraham, voilà, parle aussi d'Isaac. Et dans la tradition chrétienne, on a interprété le sacrifice d'Isaac comme étant le sacrifice de Jésus sur la croix. La préfiguration, l'annonce. Ah ben, c'était déjà annoncé dans le Premier Testament. C'est une relecture de cette histoire. Donc, sacrifice d'Abraham, ou sacrifice d'Isaac. Les Juifs appellent ce texte la ligature d'Isaac, c'est-à-dire le fait d'être lié. Hein? Au fond, Abraham, on ne nous dit pas ça dans le texte, mais on peut imaginer qu'il a lié les bras d'Isaac pour qu'il ne bouge pas. Et donc la ligature d'Isaac. Donc voilà cet épisode. C'est au chapitre 22. Et puis, je continue un petit peu plus loin. Isaac, et donc, ben voilà, il est sauvé. Et il va se marier. chapitre 22 de la Genèse. Il va se marier. C'est-à-dire qu'Abraham dit à son serviteur, écoute, je voudrais bien que Isaac soit marié, mais je ne veux pas qu'il se marie avec une femme d'ici. Donc il est en terre de Canaan, dans l'Israël d'aujourd'hui. Et je voudrais que ce soit une femme de mon pays. Et donc il envoie son serviteur. Et le serviteur, il faut qu'il trouve une belle fille pour Isaac. Et il tombe sur Rebecca. Et finalement, il y a une négociation avec la famille de Rebecca, et la famille de Rebecca accepte que Rebecca parte avec le serviteur, donc à 2000 kilomètres de là, pour se marier avec Isaac. Et donc Isaac se marie avec Rebecca. C'est à ce moment-là que, peu après le mariage, meurt Abraham à 175 ans. 175 ans, ça nous est dit dans la Bible. Oui.
Il est déjà vieux, Isaac.
Isaac est déjà vieux, il a 75 ans, oui, puisque il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Oui. Donc, Isaac se marie avec Rebecca. Catastrophe. Vous vous rappelez déjà que Sarah n'avait pas d'enfant, alors qu'elle était vieille. Elle avait eu le temps d'avoir des enfants. Si elle n'avait pas eu d'enfant avant, c'est très certainement qu'elle était stérile. Parce qu'à l'époque, évidemment, il faut avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que la seule manière de durer dans le temps, on dure par ses enfants. C'est la conscience que nous mourons, et quand nous mourons, nous ressuscitons dans nos enfants. Donc, la naissance est absolument capitale. Rebecca est stérile.
Elle aussi.
C'est héréditaire.
Donc, oui, héréditaire, sauf que c'est pas... Voilà, c'est pas... Oui, c'est une autre, quoi. Oui. Alors, donc, c'est Rebecca. Rebecca est stérile. Ce qui n'est pas simple... Mais finalement, Dieu fait que Rebecca est enceinte. Et elle donne naissance à des jumeaux, dont les noms sont, vous connaissez, Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Alors vous voyez, il y a Abraham, le fils d'Abraham s'appelle Isaac. Deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'aîné, Jacob, c'est le second. Ésaü, c'est un chasseur. Jacob, il fout pas grand-chose. Il reste chez lui, il se dort au soleil, il est rusé, il est malin. Et un jour, comme ça, il a pris le droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit qu'avait l'aîné. L'aîné avait des droits que n'avaient pas les autres enfants. Ésaü revient de la chasse, il est très 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 fatigué. Il veut absolument manger le plat de lentilles qui est en train de se préparer. Et Jacob lui dit, tu auras le plat de lentilles si tu me donnes ton droit d'aînesse, si tu me donnes tes privilèges. Ésaü, il est tellement fatigué, il a tellement faim. Qui vend son droit d'aînesse. Jacob était malin. Et il y a eu la guerre entre Jacob et Ésaü. Pendant pratiquement toute leur vie, ils se sont fait la guerre. À la fin, ils se sont réconciliés. Mais on ne parle plus d'Ésaü. Ésaü, voilà. Ésaü, il a eu des enfants, voilà. On parle de Jacob parce que c'est lui qui nous intéresse. Jacob, il a des fils. Ah, quand même, je vous raconte une histoire de Jacob. Jacob, c'est pas le mauvais garçon, mais il n'est pas sympathique, Jacob. Il est trop rusé. Mais Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Donc un jour, Jacob est dans le désert. Et puis, il combat avec quelqu'un. Et ce quelqu'un est plus fort que lui. Et ce quelqu'un le blesse à la hanche. Et ce quelqu'un lui dit, tu vas changer de nom, tu vas t'appeler Israël. Et donc le mot Israël vient de ce combat-là, qui est un combat avec l'ange de Dieu, qui est un combat avec Dieu, hein, qui nous montre que Jacob, il était en relation avec Dieu, mais une relation de combat, et où finalement Dieu est victorieux, mais Dieu le blesse et lui change son nom. Et ça deviendra alors le père d'Israël, prend le nom d'Israël, donc Jacob. Jacob, il a des fils. Il en a de très nombreux, de plusieurs femmes, 4 femmes différentes. Et il a 12 fils. Le 11e est très important. Le 11e s'appelle Joseph. Le 11e s'appelle Joseph. Et le 12e s'appelle Benjamin. C'est le dernier. Joseph, c'est un petit gars, malin, intelligent, et il est très très doué dans l'interprétation des rêves. Alors habituellement, il va avec ses frères dans la campagne garder les troupeaux. Mais Joseph, il raconte ses rêves. Il est trop intelligent pour ses frères. Les frères sont jaloux. Ils disent, mais pourtant c'est le dernier, parce que Benjamin n'est pas encore né. C'est le dernier, il nous casse les pieds, il est toujours plus intelligent que nous. Voilà. Donc ils veulent s'en débarrasser. Et ils s'en débarrassent. Ils le jettent dans un puits. Il faut qu'il retourne vers Jacob, le père, avec leur troupeau. Et le père va dire, mais où est le petit Joseph ? Alors ils prennent un vêtement de Joseph, ils le trempent dans du sang d'agneau, et ils reviennent et ils disent à Jacob, Joseph, il a été mangé par une bête sauvage. C'est évidemment la catastrophe pour Joseph. Pour Jacob, la catastrophe pour Jacob. Les frères sont des menteurs et en plus des assassins, ils se sont débarrassés de Joseph. Mais Joseph avait été jeté dans une citerne et il y a des marchands qui passent et qui récupèrent Joseph et qui l'emmènent jusqu'en Égypte. Là, Joseph, après bien des péripéties, il devient ministre de Pharaon. Et comme il est très intelligent, il met du grain, du blé, en réserve, en se disant, il y a bien une année où il y aura de la famine, et le peuple aura de quoi manger, parce que j'aurai mis du grain en réserve. Donc c'est un ministre intelligent qui fait des réserves pour les mauvais jours. Les mauvais jours, en effet, arrivent. Donc il y a du grain pour les Égyptiens. Mais les peuples autour, et notamment la population, toute la famille, tout le clan de Jacob, qui était dans l'Israël d'aujourd'hui, à cet endroit géographique, ils ont faim, c'est la famine. Donc Jacob envoie ses fils en Égypte chercher du grain. Voilà les fils qui arrivent devant Joseph. Joseph les reconnaît. Mais les frères ne reconnaissent pas Joseph. D'ailleurs, pour les frères, Joseph, il est mort depuis longtemps. Alors, Joseph, là, on peut se dire, il va se venger. C'est facile pour lui de se venger. Il suffit qu'il dise, je suis désolé, il n'y a pas de blé pour vous. Il peut être encore plus méchant. Il peut demander aux gardes de les mettre en prison. Il peut même les faire tuer. Joseph peut se venger. Joseph ne se venge pas. Il dit, ben écoutez, prenez du blé et puis revenez avec votre père. Ah, mais il est très vieux. Alors revenez avec le dernier des fils. Le dernier des fils qui s'appelle Benjamin. Alors, des mois après, il faut du temps, des mois après, les frères de Joseph arrivent au palais de Pharaon avec le petit Benjamin. Alors Joseph reçoit ses frères, il leur donne du blé, et puis il cache dans le sac de Benjamin une pièce d'or, pas une pièce de monnaie, un bol d'or, une coupe d'or. On les fouille, on trouve cette coupe d'or dans le sac de Benjamin et on dit c'est un voleur. C'était une feinte de Joseph. Joseph dit, écoutez, rentrez chez vous, mais moi je garde Benjamin, puisque c'est un voleur. Et revenez avec votre père. Alors là, les fils de Jacob, ils reviennent à la maison. Ils racontent cette histoire à Jacob, qui est désespéré. Il avait déjà perdu Joseph. Voilà que maintenant, il perd Benjamin, qui est prisonnier en Égypte. Et finalement, Jacob vient. Et il y a les retrouvailles entre Jacob, les frères et Joseph. Il y a les retrouvailles, ils se réconcilient. Et Joseph pardonne à ses frères. Jacob est ravi de ses retrouvailles. Il retrouve Joseph, il retrouve Benjamin. Et Jacob va mourir. Ce qui est normal, il est vieux. Il va mourir. Et Joseph continue à vivre. Et toute la famille de Jacob, quand on entend par famille, ce n'est pas 3-4 enfants, voire même 12 enfants. C'est les cousins, les oncles, c'est ce qu'on appelait une tribu. Ça veut dire c'est du monde. Ils sont tous là, ils se sont installés en Égypte. Et pendant des dizaines d'années, et d'année en année, ben évidemment, il y a des naissances. Le pharaon n'est pas mécontent d'avoir ces gens-là qui sont sympathiques. Mais il y a un changement de pharaon. Et le nouveau pharaon s'inquiète. Il se dit, oh là là, mais ces gens, ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils vont prendre la place des Égyptiens. Ils vont devenir plus nombreux que nous. Alors, il faut arrêter. Il faut qu'il n'y ait plus de naissance. Une bonne manière qu'il n'y ait plus de naissance, c'est quoi? C'est de tuer les garçons. Vous allez me dire, oui, mais une bonne manière qu'il n'y ait plus de naissance, c'est de tuer les filles. Non, parce que les filles vont être utiles aux Égyptiens. Elles donneront naissance à des Égyptiens, même si elles ne sont pas égyptiennes elles-mêmes. Tandis que les garçons donneront naissance à des non-égyptiens. Donc il faut tuer les nouveau-nés. Ordre est donné à toutes les sages-femmes de tuer chaque nouveau-né garçon. C'est ce que font les sages-femmes. Et puis un jour, et ce sera la suite au prochain numéro, eh bien, il y a quelqu'un que la mère veut sauver, et ce sera l'histoire de Moïse. Donc Abraham, Isaac, Isaac donne naissance à Ésaü et Jacob. Jacob donne naissance à 12 fils. Joseph est abandonné par ses frères, devient ministre, fait venir toute la tribu. Le pharaon les accepte sans problème. Changement de pharaon, qui a peur que cette tribu devienne trop nombreuse. Et on verra la suite au prochain numéro. Qu'est-ce qui arrive après ? Voilà.